Bonsoir, cher Antoine.
Bonsoir, Arnaud Laporte. Bonsoir à toutes et à tous. À 86 ans, le musicien autrichien Nikolaus Harnoncourt, l'un des initiateurs du mouvement baroque dans les années 70, a adressé une lettre manuscrite à son cher public le samedi 5 décembre, lui annonçant que son état de santé le contraignait à se retirer définitivement de la vie musicale, nous apprend La Croix. Il avait d'ailleurs dû annuler plusieurs concerts ces derniers mois, notamment à la tête du Consensus Musicus, l'ensemble fondé avec son épouse Alice Harnoncourt en 1953. Une relation incroyablement étroite s'est développée entre nous sur scène et vous dans la salle. Nous sommes devenus une joyeuse communauté de pionniers, écrit-il dans sa lettre. Un autre pionnier s'apprête à tirer sa révérence à un âge bien plus jeune. Pensez, il a à peine 80 ans et ça va faire 40 ans qu'il dirige l'Orchestre National de Lille, créé en 1976 sur les cendres d'un ensemble philharmonique de l'ORTF. Qu'est-ce qui a amené là le russo-catalan né à Montmartre, passionné de jazz, qui cachetonnait aux percussions avec Maurice Jarre et Joseph Kosma, Quincy Jones et Lalo Schifrin, enregistré avec Sheila et Sylvie Vartan, comme le décrit Le Monde. J'avais d'abord dirigé au Théâtre du Châtelet, puis à l'Opéra Comique et à l'Orchestre des Pays de Loire, rappelle-t-il à Alexis Campion dans le journal du dimanche. En 1975, Michel Guy, alors secrétaire d'État à la Culture, me propose de terminer le contrat d'un orchestre viré, un cadeau empoisonné, selon ses propres termes. Ce n'était pas la perspective la plus agréable, mais j'ai accepté. Avec ses 4 millions d'habitants, mais pas encore beaucoup de vie culturelle, après ses fanfares, le Nord me paraissait tout de même avoir un beau potentiel. Je pensais ne rester que 6 mois, mais j'ai tout de même convaincu Pierre Mauroy de nous laisser une chance. Il était jeune président du Conseil régional et il a eu le génie de m'entendre. C'était un historien plutôt porté sur le théâtre, mais aussi un visionnaire. Dans le contexte du deuxième choc pétrolier, il n'a pas eu peur de donner la priorité à l'éducation et à la culture. Je le dis avec modestie mais conviction, nous avons été pionniers dans cette région et en France, devenue depuis la plus culturelle du pays avec ses nombreux musées dont le Louvre à Lens, la piscine à Roubaix, ceux de Lille, Villeneuve-d'Ascq, Douai, Tourcoing, Boulogne, et puis il y a l'Opéra, le Théâtre du Nord, les scènes nationales et évidemment l'ONL. Nous avons été pilotes avec l'idée de porter la musique partout où elle pouvait être entendue, à Billy Berclos, Lens, Denain ou Boulogne, dans les salles des fêtes, les aciéries, sur les carreaux de mine. Un jour, se souvient encore Jean-Claude Casadesus, alors que je lui demande de m'emmener à l'opéra, un chauffeur de taxi me dit « Ah ça, pas pour nous ». Je me suis juré de le faire mentir et de sortir la musique des lieux sacralisés. Pour y arriver, il fallait que j'appelle moi-même les maires pour leur expliquer que je n'avais pas tant de moyens, mais que grâce aux subventions régionales, ils pouvaient acheter mes concerts à des tarifs très bas. C'est parti comme ça. Cette histoire prouve qu'on peut défricher. On jouait Mozart, Beethoven, Haydn et du contemporain. On a débuté à 57 et aujourd'hui, on est 100 musiciens. Et Jean-Claude Casadesus rappelait à notre consoeur Marie Audroux du Monde que si son premier concert lillois en 1976 comportait plus de musiciens sur scène, 57, que d'auditeurs dans la salle, il n'y en avait que 51. Quatre décennies après, un bassin de quelques 200 000 spectateurs répartis dans quelques 250 villes de la région fait foi du travail accompli. Pionnier, il le fut en apportant la musique classique là où on ne l'entendait ni ne l'attendait, des prisons aux quartiers sensibles en passant par les hôpitaux, les communes rurales et bien sûr les écoles, en familiarisant les entreprises régionales avec les pratiques du mécénat culturel, encore bien timide à l'orée des années 80, en bataillant, pour faire rayonner l'ONL hors de ses frontières de verre, sociales, esthétiques et géographiques, raconte notre autre consoeur Emmanuel Giuliani dans La Croix. Nous ne regrettons absolument rien, poursuit Jean-Claude Casadesus dans un sourire, même si toutes ces initiatives pour partir à la rencontre de publics éloignés ou défavorisés ont eu tendance à nous étiqueter boy scout de la double croche. On comprend que si l'homme engagé, l'infatigable passeur de musique s'en félicite à chaque instant, l'artiste conscient de sa valeur, qui a travaillé avec Pierre Boulez, Olivier Messiaen, Mislav Rostropovitch ou encore Yehudi Menuhin, s'en agace quelque peu. Jean-Claude Casadesus, reprend Marie Audroux dans Le Monde, n'a jamais caché que ce succès en région avait parfois un arrière-goût d'amertume dû à ce qu'il appelle la condescendance parisienne à l'égard de l'artiste de province. Le 20 novembre, le maestro inaugurait en terre lilloise la série de concerts qui marquera sa dernière saison de directeur musical avec Mahler, son compositeur préféré. C'était la deuxième symphonie dite Résurrection. Certains s'étaient amusés du paradoxe, mais une semaine, jour pour jour après les attentats parisiens du 13 novembre, le choix de l'œuvre prenait une autre dimension. Le chef d'orchestre qui dédiait ce concert aux victimes avait rappelé que face à cette barbarie ambitieuse de nous mettre à genoux, les artistes, plus que jamais, étaient porteurs d'une parole de liberté et d'amour. On se souviendra longtemps de l'émotion qui avait envahi le public de l'auditorium du Nouveau Siècle avant la standing ovation libératrice. La musique permet aussi ça.